This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous allons maintenant revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions de Radio France Internationale. Ce soir avec Christina Okello pour la rédaction en anglais.
Good evening.
Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
Et Pizé Mam de la rédaction cambodgienne.
Sosday Philippe.
Bonsoir à vous tous. Alors cette semaine a été marquée en France par le déplacement effectué par le président de la République en Corse, ce qui a donné lieu à une passe d'armes entre Emmanuel Macron et les dirigeants nationalistes de l'île, dans la mesure où celui-ci n'a pas accordé ce que souhaitaient ceux-là. Comment cette situation, un État centralisé confronté à la volonté de différence, voire d'indépendance d'une région, est appréhendée dans d'autres pays du monde? Voyons cela avec vous, mais tout d'abord, la rédaction Khmer s'est attachée au bilan de cette visite officielle dans l'opinion française, sachant que le président a, comme à son habitude, Pizemam, fait du en même temps.
Oui, Philippe, le président Macron a surtout montré sa fermeté face aux responsables politiques nationalistes corses. C'est le fond, le président Macron a été très ferme en refusant la plupart des demandes des nationalistes. Non à l'amnistie des prisonniers, non à la création d'un statut de résident et non à la co-officialité de la langue corse avec le français. Et c'est la forme et le symbole. Il a montré aussi la fermeté, notamment des quatre drapeaux français derrière lui lors de son discours et la présent de Jean-Pierre Chevènement à son côté, l'homme le plus haï des nationalistes corses. Mais en même temps, le président Macron a ouvert la voie à une reconnaissance de la spécificité de la Corse avec la possibilité d'évoquer la Corse dans la Constitution. Et en conséquence, l'aménagement de l'article 72 de la Constitution représente une ouverture significative.
Et Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté là. Il a également donné des leçons aux dirigeants corses, Pizet.
Oui, en effet, Emmanuel Macron a profité pour rappeler aux responsables politiques corses de commencer par exercer pleinement leurs responsabilités avant de revendiquer des nouvelles évolutions institutionnelles. C'est une leçon de bonne administration. Le président a notamment évoqué le sous-emploi des dotations de l'État et des aides européennes et aussi des faiblesses de la politique du logement conduite par la collectivité de la Corse. Donc le message du président Macron a été clair. La République est résolue à aider vigoureusement la Corse à construire son avenir, à condition que celle-ci ne s'enferme pas dans un face-à-face ruineux et stérile avec la République.
Christina Okello, il y a donc la Corse qui veut s'émanciper de la tutelle française au moment où il y a des poussées en Europe, poussées séparatistes en Écosse, en Flandre ou encore en Catalogne.
Oui, tout à fait, Philippe. À la rédaction anglaise, nous nous sommes interrogés sur les raisons qui poussent certaines régions à vouloir se désolidariser du reste du pays. Dans les cas de la Corse, nous avons bien vu, c'est pour préserver une particularité culturelle. Dans d'autres régions comme l'Écosse, c'est pour obtenir plus de prérogatives, voire leur indépendance du Royaume-Uni. Un royaume pas tout à fait uni ces temps-ci d'ailleurs. Mais nous sommes arrivés à cette conclusion que les Français qui englobent tous ces pays ne sont pas immuables. Du moins, c'est ce que pense Ben Tallis, un expert des frontières qui nous a parlé depuis l'université métropolitaine de Prague. Écoutons-le.
One crucial thing to perhaps think about in this regard is that borders.
Donc en gros, il dit qu'il y a une chose à garder en tête, c'est que notre idée des frontières et de la façon dont nous les définissons est artificielle. Il n'existe pas de frontières naturelles, c'est une construction sociale et politique, et très souvent avec des mouvements indépendantistes et du mouvement pour plus d'autonomie, comme en Corse, il ne s'agit pas de redéfinir les frontières, mais de changer la manière de le faire, dit-il.
C'est-à-dire.
Donc en gros, autrement dit, la construction d'une nation est un processus long. Ce n'est pas parce qu'on annexe un pays qu'on tire une ligne de démarcation que ce pays nous appartient. Il garde encore ses spécificités. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni pour s'en rendre compte. Le Brexit d'ailleurs a brutalement mis en lumière les fragilités historiques de cette union où la domination des Anglais passe mal. L'Écosse a évité de justesse un divorce avec le Royaume-Uni en 2014, mais depuis un an, elle ne cesse de réclamer un nouveau référendum.
Autre question, faut-il céder aux velléités séparatistes de ces différentes régions ?
Cela ne peut pas être fait de manière brutale, comme c'était le cas avec la Crimée il y a quatre ans maintenant, lorsqu'elle a voté pour se rattacher à la Russie. La communauté internationale a jugé le référendum illégal, car il s'est passé en plein conflit avec l'Ukraine. Les demandes d'autonomie, il faut rappeler, ne se passent jamais sans heure. L'Espagne vit toujours une situation de crise depuis le vote de la Catalogne en faveur de l'indépendance en octobre dernier, une crise qui a d'ailleurs valu au chef séparatiste un mandat d'arrêt avec l'arrestation de plusieurs séparatistes.
Et sur tout cela, l'Europe finalement, et l'Union européenne est quasiment muette.
Oui, tout à fait. Pire, elle a renvoyé le problème à l'Espagne pour le régler en interne. Notre expert Bentalis explique que la position de l'Union européenne est délicate.
The European Union is caught. It's caught between principle and pragmatic politics.
Donc juste pour résumer, il dit que l'Union européenne est entre le marteau et l'enclume. Par principe, l'Europe devrait soutenir les demandes légitimes d'autonomie des régions, mais à cause de la réelle politique, elle ne doit pas être perçue comme s'opposant à un État membre. D'ailleurs, les États membres sont réticents aussi à l'idée de s'ingérer dans les affaires d'un autre pays par peur des effets de contagion. En conclusion, des analystes prônent d'ores et déjà la création d'une nouvelle entité à l'échelle européenne afin de répondre à ces défis séparatistes, défis qui ne semblent pas disparaître dans les semaines à venir.
Lucien Mouzel de la rédaction brésilienne. L'accord, c'est très loin du Brésil. Géographiquement, ça fait quelques milliers de kilomètres. Alors, pour commencer, est-ce que les Brésiliens connaissent ce département français?
Bah, écoutez, Philippe, je vais être franche. À part les francophiles, en général, les Brésiliens ne savent même pas que l'accord, c'est un territoire français. Déjà, sous le point de vue géographique, ils ont du mal à la situer sur un plan. Mais n'empêche que nous ayons traité ce sujet dans nos antennes cette semaine avec le focus justement sur la question nationaliste. Les Brésiliens se sont beaucoup intéressés au vote pour l'indépendance de la Catalogne l'année dernière. Donc la question corse a suscité du coup pas mal d'intérêt de nos internautes. Pour certains, c'était la simple découverte de ce sujet. D'autres ont vite retrouvé un lien avec la montée des nationalismes un peu partout. On a vu l'Écosse, même la Crimée. Et attention, cette vague touche aussi le Brésil où nous avons un mouvement séparatiste.
Des séparatistes, ça veut dire qu'il y a une région qui veut se séparer du Brésil?
Eh oui, c'est un peu méconnu ça, mais absolument, ce n'est pas nouveau. C'est un mouvement de séparation du sud du Brésil qui estime avoir retrouvé de la force ces derniers temps. Alors, vous savez, le Brésil, il est divisé en 5 régions géographiques. Ce mouvement appelé « Le Sud est mon pays » existe depuis 25 ans dans les États du Sud, c'est-à-dire le Rio Grande do Sul, le Santa Catarina et le Paraná. Et en fait, cette histoire, elle remonte dans le temps et a provoqué une guerre dans les années 1830-40. Il y avait beaucoup de discordances économiques et politiques par rapport au gouvernement central brésilien. Et le Rio Grande do Sul a proclamé à l'époque l'indépendance du Brésil. Cela a duré une dizaine d'années. C'est la révolution Farroupilha qui alimente toujours jusqu'aujourd'hui le rêve indépendantiste de certains habitants du Sud.
Et donc un rêve, mais est-ce que ça peut devenir une hypothèse? Peut-on penser qu'il pourrait y avoir un séparatisme dans le sud du Brésil?
Bah, franchement, pour le moment, pas du tout, mais ils entendent bien faire monter la pression, surtout en ce moment. Depuis 2016, les séparatistes brésiliens ont décidé de réaliser tous les ans un référendum informel sur cette question. Ils ont attiré 600 000 participants au premier vote, 350 000 au deuxième. Cela reste donc très marginal face à une population de plus de 21 millions de personnes qui vivent dans le sud du Brésil. La plupart des arguments des séparatistes ne tiennent pas la route, il faut dire. Ils estiment que si le Sud était indépendant, il serait un pays développé. Sauf que la crise a frappé vraiment très fort pour eux ces dernières années, notamment au Rio Grande do Sul, qui c'est un état proche de la faillite aujourd'hui. Ils évoquent aussi une identité culturelle qui leur serait particulière avec une forte présence de descendants européens. Mais dans un pays multiculturel comme le Brésil, cela ressemble plutôt à la xénophobie par rapport au nord d'une majorité noire et indigène. En fait, les séparatistes du Sud n'ont jamais été pris vraiment au sérieux par le reste du Brésil et même pas par les habitants de cette région, Philippe.
Merci à vous qui portez un magnifique pull avec l'Union Jack, alors que notre confrère de la rédaction anglaise ne porte pas le drapeau brésilien sur ses épaules.
Maison,
en tout cas, vous écoutez Accent du Monde.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
La rédaction anglophone s'est particulièrement attachée au nouveau pour parler de paix au Soudan du Sud, cela sur fond de menaces de sanctions américaines. Alors depuis 4 ans, Salva Kiir et ses partisans s'opposent dans une lutte à mort à son ancien vice-président Riek Machar et fait enliser le pays dans une guerre civile. Aujourd'hui, les observateurs veulent croire à une cessation permanente des hostilités, Christina Okello.
Oui Philippe, car tous les cessez-le-feu qui ont été signés auparavant ont été violés dès leur mise en vigueur et les gens ont tout simplement maintenant assez et veulent voir ce cycle de violence s'arrêter. C'est ainsi le but de cette nouvelle série de pourparlers dans la capitale éthiopienne. Et à la rédaction anglaise, nous avons contacté le représentant britannique de la Troïka qui fait partie de ces négociations, Chris Trott. Et lui, il explique que la communauté internationale perd sa patience.
It's absolutely clear that not just us, but the African Union.
Que dit Chris Trott?
Donc, il précise que ce ne sont pas seulement le Royaume-Uni, les États-Unis et les Norvèges qui veulent voir des résultats, mais surtout l'Union africaine et l'organisation régionale IGAD. L'Union africaine a brandi pour la première fois il y a 2 semaines la menace de sanctions contre tous ceux qui bloquent le processus de paix. Et Trott précise que l'Union européenne mise déjà sur des sanctions ciblées contre certains individus et il revient aussi sur la décision des Américains de limiter les transferts d'armes vers le Soudan du Sud.
Alors, décision qui ne fait pas l'unanimité, en croire ces manifestants anti-américains qui se sont rassemblés cette semaine dans les rues Juba.
Oui, il faut dire que la décision des Américains passe mal, Philippe. Les manifestants dénoncent ce qu'ils appellent le colonialisme des États-Unis et ont scandé cette semaine « Amérique, mêle-toi de tes affaires, mets fin à l'embargo sur des armes ». Certes, l'administration américaine veut empêcher que les armes tombent dans les mains des mauvais groupes, ce qui ne ferait que perpétuer la guerre qui dure 4 ans, il faut rappeler. Mais l'analyste Nihal Titmama juge qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur les belligérants. Écoutons-le. Donc en gros, Titmama dit que l'annonce des États-Unis a mis le feu aux poudres et que cette décision va se retourner contre eux. Certes, il dit ne pas cautionner la circulation des armes, mais juge que plutôt que de proférer de menaces, il faut donner aux différents acteurs des raisons de respecter l'accord de paix de 2015. Pendant ce temps, il n'y a pas de carotte.
Est-ce qu'il s'agit d'amnistier ceux qui ont commis des atrocités?
Plus ou moins, ce qui peut paraître un peu controversé, étant donné les dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées à cause de ces conflits politiques sur fond de rivalité ethnique. Les États-Unis sont catégoriques. L'impunité n'est pas à l'ordre du jour. Donc, il y a un bras de fer qui devra se dénouer pendant les négociations ces prochains jours.
Autre chose qui attire l'attention, c'est l'avènement d'un troisième homme, l'ancien chef de l'armée du président Salva Kiir.
Oui, qui revient sur le devant de la scène. Il s'agit de général Paul Melong, qui apparemment a monté sa propre rébellion contre le président Salva Kiir. Cependant, pour l'analyste Joseph Ochino, cette décision pourrait se révéler bénéfique, écoutons-le.
Quelle est l'analyse?
Donc, juste pour résumer, il dit que cette désertion de la part de Paul Melong montre que Salva Kiir ne peut plus tenir. D'ailleurs, il y a l'espoir qu'il y aura une transition politique, qu'il y aura d'autres acteurs qui vont prendre le relais. Donc, c'est l'espoir de tous ceux qui sont réunis à Addis de voir le plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud, avancer, qu'il avance sous la houlette de Kiir ou d'un autre dirigeant, reste encore à déterminer.
Christina Okello de la rédaction anglophone sur ce qui se passe donc de dramatique dans cette région du Soudan du Sud. Ces 10 dernières années, les capitaux chinois sont arrivés massivement dans plusieurs pays en voie de développement, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique. Des capitaux qui drainent également les réseaux mafieux chinois. Et c'est ce qui se passe au Cambodge, Pizemam. Ce problème a suscité d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes de la part des habitants.
Oui, Philippe, chaque année au Cambodge, les capitaux venant de la Chine représentent environ 13 milliards de dollars, dont la source sont certains douteuses. Ils achètent tout, les terrains, les champs, les forêts, les lacs et même les sables dans le lit du Mékong. Mais ce qui inquiète beaucoup les Cambodgiens, c'est la présence de réseaux de bandes organisées chinois au Cambodge. Une ville côtière s'appelle Sihanoukville, connue pour ses plages de sable blanc, devenue une bourgade chinoise en l'espace de 5 ans. Ils sont arrivés par milliers, ils achètent les terrains pour construire des casinos et plein d'autres lieux de débauche. Ils louent de façon exclusive des hôtels, donc cela a fait exploser le prix de location et celui de l'immobilier de la ville.
Et donc il s'agit bien de bandes de mafia, hein?
Oui, en tout cas, d'après la population locale qui a rapporté qu'il existe bel et bien des clans et des réseaux chinois qui contrôlent le trafic d'armes et de drogue dans cette ville. La ville est devenue anarchique il y a 2 semaines. Une bande de délinquants chinois a kidnappé plusieurs personnes dans notre clan. Cette violence et l'insécurité ont fait fuir les autres touristes étrangers et même les touristes cambodgiens n'osent plus y mettre les pieds. L'année 2017, les autorités de Phnom Penh ont arrêté 1000 Chinois qui ont loué des appartements en ville pour en faire le quartier général. Donc ce sont des bandes de délinquants chinois qui contrôlent les réseaux d'escroquerie sur Internet.
Et des arrestations manifestations qui font bien évidemment régulièrement la une des médias cambodgiens. La situation est devenue telle que l'ambassade chinoise au Cambodge est obligée de réagir.
Oui, en effet, Philippe, mercredi dernier, le 7 février, l'ambassadeur chinois à Phnom Penh a tenu une conférence de presse. Nous allons écouter un instant.
Alors l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur chinois.
Oui, c'est l'ambassadeur chinois. À Phnom Penh, il disait qu'il est vrai qu'il existe des délinquants chinois au Cambodge. L'ambassade de Chine invite et soutient les autorités cambodgiennes à faire preuve de fermeté face à ces Chinois qui ne respectent pas les lois cambodgiennes. Mais Philippe, au Cambodge, l'argent c'est le roi. Le respect de la loi se mesure à l'épaisseur de liasse de dollars. Donc certains hommes du pouvoir, que ce sont les polices, de la police ou de l'armée, profitent délicieusement de ces activités illicites. Même le premier ministre Hun Sen a pris part pour protéger les intérêts chinois. Il déclare ce matin même que tout cela, c'est du calomnie. Les autres pays sont jaloux de la Chine qui a une capacité colossale à investir au Cambodge. Le Cambodge ne peut que remercier les Chinois qui sont venus faire des affaires. Mais quelle affaire !
Pizemam de la rédaction cambodgienne, justement, de RFI. Et c'est parti pour le carnaval de Rio. 13 écoles de samba vont mettre le feu. 6 millions de fêtards attendus dans la rue sous la surveillance de quelques 17 000 policiers. Et comme le carnaval rapproche les corps et les cœurs, 100 millions de préservatifs seront distribués. Un répit festif pour oublier la crise politique dans laquelle le Brésil est plongé depuis bien longtemps maintenant. Lucia Mouzel, de la crise politique, les folioes, les fêtards, si j'ai bien prononcé, en parle en musique.
C'est ça, effectivement, et cela est très très brésilien, Philippe. C'est un peuple capable de blaguer sur absolument tout, même dans les pires moments. Cette année, nous aurons, je vous rappelle, enfin des élections générales au Brésil, un moment clé où le Brésil espère enfin tourner la page de la crise politique. Le sujet est donc partout, que ce soit en forme de chanson ou de déguisement. Nous écoutions à l'instant une marchinha, une chanson populaire de carnaval dans laquelle le musicien dit qu'il faut avoir une cervelle de crevette pour croire aux populistes tels Jair Bolsonaro, c'est le candidat d'extrême droite, qui pour l'instant se porte très bien dans les sondages. Il y a plusieurs types de carnaval au Brésil. Il faut savoir que celui qu'on appelle le carnaval à la rue, a toujours porté un message politique assez important et cette année encore plus.
Et traditionnellement, les écoles de samba parlent pas de politique. C'est en train de changer, alors.
C'est ça, elles étaient en fait obligées de changer. Malgré toute la beauté des défilés à Rio, connus dans le monde entier, on les voit à la télé, les écoles de samba sont profondément liées à la corruption, hein, dont l'argent leur a largement financé toutes ces années. Ces mondes enchantés s'est écroulé et désormais une partie de la population se méfie des écoles de samba. Les gens ne veulent plus participer à ces jeux sales. Le célèbre sociologue Roberto D'Amato est spécialiste du carnaval. Il a décrypté ce phénomène pour nous, où nous l'écoutons.
Nos últimos anos, a ênfase nas escolas de samba diminuiu.
Il nous explique, que l'importance des écoles de samba s'est beaucoup réduite. Il croit une diminution encore plus importante à venir à cause de ses liens étroits avec une classe politique perçue comme pourrie. La conséquence pour lui sera le renforcement du carnaval à la rue, plus original et dans lequel les fêtards peuvent s'exprimer avec plus de liberté.
Alors au moment où l'économie du Brésil patine, que la reprise est lente, est-ce que les écoles de samba souffrent également de la crise ?
Et oui, énormément. Les différents scandales politiques et la prison de certaines figures très puissantes, ainsi que la crise qui touche les entreprises corrompues, notamment celle du BTP, ont fait disparaître les fonds abondants des écoles de samba et c'est essentiel pour elles. Dans notre rédaction, nous avons interviewé Luis Carlos Magalhães, le président d'une des plus traditionnelles école de Rio, la Portela. Il reconnaît qu'elles vont toutes devoir se réinventer pour survivre. Il nous dit que certaines d'entre elles critiquaient déjà la politique, mais c'était vraiment l'exception. Mais désormais, elles s'y lancent davantage pour essayer de retrouver la confiance du public. Cependant, M. Magalhães n'est pas sûr que ce mouvement va durer dans le temps, c'est-à-dire peut-être que quand la crise sera passée, tout redeviendra comme avant, avec les vieilles méthodes de financement. À suivre.
Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne, alors que commence le carnaval de Rio. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité du